Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
Il est 13h05 sur RMC, on va tout de suite s'intéresser à la proposition du jour dans Estelle Midi. C'est celle d'un député de la majorité qui souhaiterait durcir la loi contre les squatteurs afin de protéger les propriétaires contre des locataires mauvais payeurs. Mais que propose-t-il vraiment, Rémi ?
Alors concrètement, la proposition de loi prévoit la création d'un délit d'occupation sans droit ni titre en violation d'une décision de justice du logement d'autrui. Il permettrait aux propriétaires d'un bien immobilier d'attaquer en justice un occupant qui se maintient illégalement dans les lieux. Le texte rend aussi obligatoire la clause de résiliation dans les contrats de bail qui permet une résiliation automatique du bail lorsqu'un commandement de payer est demeuré infructueux. Donc, en clair, quelqu'un qui est dans un logement qui ne paye plus serait considéré comme un squatteur. Un juge ne pourra plus s'y opposer. Il propose encore de réduire les délais dans la procédure, ça c'est important, dans la procédure contentieuse du traitement des impayés de loyer. Et il s'agit de renforcer les peines aussi pour les squatteurs. Actuellement, un squatteur encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et cette peine, elle est inférieure à celle qu'encourent les personnes qui expulseraient personnellement les squatteurs de leur domicile sans avoir recours à la police, qui est de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. L'idée est de ramener les peines à la même hauteur.
Pour ou contre le durcissement de la loi contre les squatteurs, Perico Legas?
C'est une priorité parce qu'il y a de telles tragédies. Alors attendez, le grand propriétaire un peu riche qui a un locataire...
J'aime bien le prendre... un peu riche. Il est riche, il n'est pas riche.
Ouais,
un peu riche.
Je veux dire la grosse fortune qui a de gros appartements.
Il n'est pas un peu riche.
Voilà, il n'est pas un peu riche, mais c'est une tournure de langage. Et dont le locataire a des problèmes de fin de mois, celui-là ne peut pas bénéficier d'une loi. Par contre, je parle de ceux qui sont... dont la vie est
donc, la loi n'est pas la même pour tout le monde. Donc, hein, en fonction de si vous êtes riche ou pas riche. Bon, bah, écoutez, c'est un. Non,
mais oui, heureusement. D'ailleurs, mais fiscalement aussi, je veux.
Enfin, là, c'est la loi.
Une loi, elle tient compte de la réalité du terrain, des contextes sociaux et des enjeux qui sont. Et la loi est faite pour ça.
Vous allez au tribunal, je veux dire, vous êtes jugé pareil si vous êtes riche ou pas.
Il y a un dossier qui est constitué. Eh bien, le dossier n'est pas le même. Le dossier de quelqu'un qui a des appartements dans le 6e arrondissement, qui les loue très cher, et la personne a un problème de loyer, ne sera pas traité comme la personne qui vit de ce loyer. Vous voyez, mais c'est la justice sociale, c'est le
béaba.
Mais
je sais
bien que ça vous choque, mais c'est pour ça.
Oui, la loi doit être la même pour tout le monde.
Non, la loi n'est jamais la même. La loi prévoit des cas de figure. La vitesse,
il y a droit à l'interprétation.
Non, 50 km de dépassement, c'est 2 points, 30, c'est 1 point.
Oui,
donc,
d'accord. Et c'est la même chose. Si vous avez un SUV ou si vous avez une voiture pourrie, vous avez la même loi sur le code de la sécurité routière.
Mais on fait pas allusion à ça. Donc je finis ma démonstration. Les gens dont les revenus dépendent de ce loyer, il y a des gens qui aujourd'hui ne vivent pas parce que le loyer n'est pas payé, et la justice est là, dit, ah non, vous ne pouvez pas expulser entre le 15 octobre et le 15 mars. Nous avons vu les émissions se succèdent les unes après les autres, y compris sur cette chaîne, de maisons squattées par des gens qui sont soit dans la difficulté, des étrangers, des migrants, avec des propriétaires qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, avec les tribunaux qui n'aboutissent pas, et surtout, on leur dit, surtout, n'allez pas les expulser vous-même. Quand ils récupèrent leurs biens, c'est dans un état de taudis absolument épouvantable, et on est dans une situation où l'état de droit de la République française fait que des gens qui occupent illégalement, ils ont une protection, ou en tout cas, les procédures n'aboutissent pas, et les propriétaires n'ont droit à rien, sinon à faire très attention à ne pas faire justice eux-mêmes, ce qui est très bien. Donc, il était urgent qu'il y ait une loi très dure, très sévère, très ferme, très équitable. Voilà. Et que le propriétaire qui n'est pas totalement dans le besoin, on peut peut-être le faire attendre un petit peu.
Oh bah lui, il peut récupérer son appart en taudis, il n'y a aucun problème. Et puis s'il le refait, c'est pas grave, il est riche.
Non, je ne parlais pas de ces cas-là. Je parlais d'un locataire correct qui, à un moment donné, a eu un problème de fin de mois.
La loi doit être la même pour tout le monde.
Estelle, Denis, avec la personne qui fraude, qui casse la maison et qui s'installe. Voilà, la situation n'est pas la même.
Oui, mais sauf que par exemple, effectivement, si c'est un propriétaire riche, il a encore le droit de récupérer son bien, c'est son bien.
Mais il va récupérer. Sauf que la loi donnera un délai au locataire pour le payer. Je parle de ceux qui ont cassé l'appartement, qui sont installés illégalement et qui ne payent pas leur loyer depuis 2 ans.
D'accord. Et on a le droit de casser l'appartement des riches et de ne pas payer l'appartement depuis 2 ans ou ça c'est pas assez?
Non, je dis que si c'est un problème de solvabilité du locataire, un locataire tout à fait respectueux et correct qui a un problème de fin de mois, peut-être que la procédure doit être un petit peu plus souple envers lui parce qu'on lui laisse une chance, que celui qui est rentré par effraction, qui a tout pété, qui ne paye rien. C'est vous m'avez compris, vous êtes totalement d'accord avec moi en plus.
Non, pas vraiment. Mathilde Immer, est-ce qu'il faut que l'État se porte garant? Parce que justement, il y a aussi, Perico le disait, il y a des cas où, par exemple, eh ben, vous êtes une femme seule avec deux enfants et puis vous avez un accident de la vie qui fait que vous ne pouvez pas payer votre loyer. Évidemment, on ne va pas vous foutre dehors, ça paraît aberrant, même si le propriétaire a besoin de récupérer son bien. Est-ce qu'il faut que l'État puisse proposer des situations de relogement pour que tout le monde soit content, entre guillemets? Sinon, ça va aboutir à des drames, évidemment.
Merci d'avoir dit avec le meilleur mot que moi.
Perico, en réalité. Je pense qu'il y a une grosse différence à faire, comme le disait Perico, entre les personnes qui sont non solvables dans la question de la location et les personnes qui squattent. Sauf que dans la loi, c'est pas si évident que ça de faire la différence. Et donc là, il faut regarder très précisément ce que propose le texte. Or, on n'a pas encore le détail là-dessus. Moi, j'ai presque envie de dire oui à une condition et qui est vraiment importante pour
oui
moi.
Au durcissement.
Oui au durcissement. D'accord. Si et seulement si il y a pour le propriétaire une obligation de rénovation thermique du bâtiment. Pourquoi ça? Non mais j'y viens.
Je me disais tiens c'est marrant on n'a pas parlé depuis 10 minutes.
Oui. Elle a raison après
mais
tout.
Mais
hein.
Oui, elle a raison.
Franchement tu
fais du pire de coup.
On a plus le droit de louer les passoires thermiques. Hein.
Elle joue à l'utile à l'agréable. Ça
non mais c'est important. Pourquoi à nouveau les gens vont avoir des factures qui explosent? Comment est-ce que ceux qui vont être dans le choix à faire entre payer son loyer, payer sa facture et manger, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Bah, peut-être qu'il y en a qui vont choisir de ne pas payer leur loyer parce qu'ils ne peuvent pas. Est-ce que ces gens-là, on va les faire foutre dehors?
Mais non, c'est le problème.
Bah, je pense que non. Et donc, cette proposition-là, il faut la regarder, mais il y a un moment où il me semble que l'État doit être dur avec les squatteurs, doit être dur avec les propriétaires qui ne font pas ce qu'il faut pour que les locataires aient moins à payer et pour des questions écologiques et de pouvoir d'achat, et dur aussi avec. Le durcissement des questions environnementales
bête,
qui deviennent des questions...
Glisse une petite mesure écologiste dans la loi. Tac,
mais c'est pas écolo, en fait. Ça n'est pas écolo, c'est une question de pouvoir d'achat. Je sais pas comment le dire, que tous les sujets écolos sont des questions qui, à terme, sont des questions de pouvoir d'achat.
Donc le mec, il récupère son loyer, mais il a 40 000 euros en plus de travaux. Donc,
mais non, parce que t'as des prêts
aujourd'hui, de toute façon, de facto, tu ne peux plus louer de passoires thermiques avant d'avoir fait des travaux.
Certaines passoires thermiques, seulement une petite catégorie. Mais c'est important ce que tu dis, parce que j'arrête là-dessus. Bon. Oui, en effet,
on s'est compris. La loi sera pas la même pour tout le monde.
Je te garde au chaud. Deux secondes, je voudrais qu'on prenne Thierry. Justement, c'est intéressant, Thierry, les propriétaires retraités nous appellent de Floride dans l'Aude. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Et Thierry, vous avez eu un souci il y a 4 ans.
Oui, je réside sur la commune de Fleury, mais en fait, la maison qui a été occupée, squattée, avec des serrures explosées, les verrous qui ont été explosés, ça remonte à 4 ans. Ça se situe à Carcassonne. Voilà.
D'accord.
Donc cette maison, moi je suis rentré un soir, je venais de fêter le retard de mes pensions, et je suis rentré vers 11h30, minuit. Et j'ai trouvé la lumière allumée, quelqu'un dedans qui me dit, je suis chez moi, ici. Ben, j'ai dit, attendez, vous rêvez, c'est une femme d'une trentaine d'années. J'ai dit, non, vous êtes chez moi. Là. Si vous êtes rentré en cassant la porte, vous n'êtes pas chez vous. Bon, voilà. Donc, sur un coup, elle a appelé la police. Elle est sortie dans le jardin, elle a appelé la police est arrivée. Ils m'ont dit, monsieur, vous avez frappé. J'ai dit, non, je n'ai pas frappé, c'est une menteuse. Elle occupe, elle a cassé la porte. Constatez d'abord qu'elle a cassé la porte. J'ai dit, moi, si, écoutez-moi, je fais 115 kilos. Si je la frappe, je me fais du steak haché dans les murs, d'accord?
Alors, ce qui n'est pas souhaitable.
L'identité judiciaire. Ben ouais. Et le flic me dit, calmez-vous. Non, je ne me calme pas. Je ne me calme pas parce que si vous rentrez chez vous ce soir, qu'il y a quelqu'un qui a cassé la porte et rentre chez vous.
Ah non, mais c'est inadmissible.
Comme un pinceau, d'accord?
Mais là, c'était il y a 4 ans, vous avez récupéré votre bien, Thierry, quand même.
Il y a 4 ans, mais ça dure. Mais oui, le problème, c'est que ça dure. Si ça avait été qu'un temps. Et le lendemain, ils sont revenus parce que moi, quand elle a voulu sortir, ben, voulu refermer la porte, j'ai mis un coup d'épaule, donc c'est bon. Et donc après, Et donc elle a appelé les flics et là, on m'a dit, monsieur, vous l'avez menacé de mort. J'ai dit non. Et après, cette femme s'est mise à crier, à hurler, vous voyez, à hurler, voilà. Donc le capitaine, l'OPJ m'a dit, monsieur, pour nous, ça s'arrête là, on s'en va, démerdez-vous, voilà.
Mais alors, vous en êtes où, Thierry? Vous en êtes où aujourd'hui? Vous en êtes où aujourd'hui?
Cette personne-là s'est faite passer pour un propriétaire, c'est hallucinant. Elle a loué à des Croates, et donc, depuis, les Croates sont restés un an et demi, deux ans, sans payer de loyer ni rien, ils ont récupéré les clés. Mon fils, après le confinement, est arrivé, il avait fait un bail, voilà, il avait...
C'est une histoire compliquée, quoi.
Donc ils n'ont jamais payé. Ils sont à bout de deux ans, ils sont barrés sans payer le loyer. Et donc, ils ont passé les clés. J'étais même pas au courant. Ils ont passé les clés à quelqu'un de la famille, une tante de la famille. Et donc, j'ai maintenant une dizaine de Croates dans cette maison qui ne paient pas non plus les loyers. Rien du tout. Voilà. Voilà où on en est.
Et donc, c'est une catastrophe pour vous, quoi.
Dans la maison. Je vends la maison, donc ça a été compliqué parce que les acheteurs...
Ben, moi, j'achète pas, ça c'est sûr, mais la situation est compliquée.
Le notaire à Carcassonne pour faire un avenant, parce qu'ils acceptaient de prendre la maison et s'occuper de les faire évacuer. Mais bon, ça m'a valu de perdre... Donc d'abord, la maison, le premier temps, elle a été vidée de ses meubles. Donc, j'ai perdu plus de 30 000 euros de mobilier, 28 000 euros de perte de loyer, et là, j'ai baissé le prix de la maison à 50 000 euros. Donc, résultat des courses, je perds 100 000 euros sur 4 ans. Voilà.
Ouais, vous êtes évidemment très perdant, mais merci beaucoup pour ce témoignage, Thierry, c'est hallucinant. Ouais. Et le pire, c'est que des histoires comme ça, qui nous paraissent mais totalement abracadabrantes, il y en a plein, en fait.
Et je le rappelle, hein, si jamais il avait voulu se faire justice lui-même, c'est-à-dire aller virer les squatteurs.
Il y a un peu pensé quand même.
C'était 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Alors que la justice met énormément de temps à traiter, parce qu'on n'a pas les moyens, que la justice n'arrive pas à faire ça dans les délais, mais c'est un sujet aussi.
Pierre Rondeau, justement, quand on entend ce genre de choses, on se dit que ça donne presque envie de se faire effectivement justice à soi-même, ce qui n'est jamais une bonne chose. Est-ce que c'est bien que la loi donne un peu d'espoir, entre guillemets, aux propriétaires?
Alors, mais je reprends ce que disait Perico justement sur la question de la loi et de l'application de la loi et la distinction qu'on pourrait faire entre des propriétaires solvables ou non solvables. La loi, malheureusement, en droit franco-allemand, elle s'applique pareil pour tout le monde. Donc on ne peut pas faire des distinctions.
Pourquoi franco-allemand?
Il y a le droit anglo-saxon, c'est l'interprétation, le juge arbitre, et le droit franco-allemand où on applique la loi qui a été votée à l'Assemblée. C'est le système philosophique du droit, très simplement. Et faire une loi à ce sujet-là sur les squatteurs ou le squat, c'est prendre le risque de mettre sur une même balance, sur un même niveau, les gens insolvables qui ne peuvent pas payer leur loyer et qui ont un bail, mais qui malheureusement, pour l'histoire de vie, n'ont plus les moyens de payer, et les squatteurs, comme le témoignage de Thierry, qui vont forcer la porte. Qui vont squatter.
Il y a 1000 juristes qui sont prêts à faire le texte qui va faire la différence, très précise.
C'est pour ça que dans le durcissement de la loi,
ces squatteurs-là, ils doivent rarement richissimes et fils de bonne famille.
Dans la question de la loi, on ne connaît pas encore le projet en l'état actuel des choses, mais tel qu'il sera fait, je suis pour effectivement durcir le cas des vrais squatteurs.
Les fractions. Retard de loyer.
Et là, les retards de loyer, moi, le risque qu'on fasse une loi sur les retards de loyer, les non-paiements de loyer, c'est qu'on attaque aussi directement la mère de famille, seule, avec enfant, qui n'a plus les moyens.
Si c'est au bout de 24 mois, peut-être que là, on peut être un petit peu plus dur que 3 semaines. Tu vois ce que je veux dire.
Sûrement, mais quand on parle de loi, il faut être très précis.
Par contre, fractions, avec occupation des lieux,
les occupations illégales, bien évidemment.
Ce témoignage de plus.
Personne ne peut défendre.
C'est le 100e témoignage qu'on a de ce genre. On est dans un état de droit qui s'appelle la République française, mais un mec arrive de Mars, il dit c'est surréaliste.
T'arrives chez toi, et le flic, c'est toi qui te dis je suis chez moi.
Et le flic te menace.
Qui utilise tes fringues, qui dort dans ton lit, qui tes photos cassées.
Et le policier ou le gendarme qui est là pour te défendre te dit vous l'avez tapé, elle a crié, vous dégagez.
Mais ça montre aussi que nos institutions, qui à une époque, quand même, j'ai l'impression, marchaient mieux, mais l'école, la justice, la police. Moi, je rêve d'une France où on a des trains qui arrivent à l'heure, des hôpitaux où il y a suffisamment de soignants, et j'ai l'impression que tout se délite un peu. Ouais,
complètement.
Non, mais je rêve. Oui, mais c'est ça, en fait.
Surtout que les bâtiments sont pas.
On parle toujours de ces cas extrêmes. On parle pas des gens qui ont des trains supprimés tous les 4 matins, des gens qui sont assis dans les trains. Et moi, il y a un moment où ça aussi, je pense qu'il faut mettre en avant et que c'est une question d'anticipation des pouvoirs publics.
Faut tout voir.
Rémi, vous avez un message.
J'ai un message très intéressant qui nous parvient sur Direct Studio de Séverine. Écoutez bien. Je suis une maman avec 2 enfants.
Oui.
Je n'ai pas les moyens financiers de louer autre que des logements sociaux, même avec des garants. Les bailleurs privés ne veulent pas de mon dossier.
Oui.
Actuellement, je suis logée, je m'en réjouis, par l'OPAC de l'Oise, mais c'est une passoire thermique. Donc, voilà. Elle aimerait se loger, on l'a compris, dans le parc privé.
Oui,
je comprends que les bailleurs aient peur de me loger, mais ils n'ont pas peur de moi parce que je suis quelqu'un d'honnête et prêt à payer. Ils ont peur des mauvais payeurs et des squatteurs. Je suis donc moi-même une victime, quelque part, des gens qui ne respectent pas la loi.
C'est ça, ça pénalise ceux qui sont ric-rac au niveau du financement,
qui sont honnêtes et qui sont prêts à payer leur loyer et qui feront tout pour payer leur loyer, mais qui sont confrontés à la défiance de la part des bailleurs privés qui, eux, ont peur des mauvais payeurs, des vrais mauvais payeurs.
Notre invité sur ce débat, c'est Christophe Domerson. Il est président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI. Bonjour Christophe.
Bonjour Estelle.
Ça va dans le bon sens, c'est toi Christophe, vous l'attendez depuis longtemps.
Écoutez, c'est vrai qu'on l'attend depuis longtemps, cette loi. Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, il faut voir que déjà l'année dernière, en décembre 2021, on avait les mêmes soucis. Et il y avait une proposition de loi qui avait été adoptée au Sénat, justement pour accélérer les procédures administratives, et puis pour tout simplifier, et puis aussi pour bien définir ce qui pouvait être saisi ou pas, parce que qu'est-ce que c'est qu'un appartement, qu'est-ce que c'est qu'une maison, qu'est-ce que c'est qu'un atelier, qu'est-ce que c'est qu'un immeuble. On voit en réalité aujourd'hui en face de nous, j'allais dire, des délinquants professionnels, malheureusement, et ces délinquants professionnels, ils sont bien au courant de tout ce qui se passe, notamment par des sites internet. Donc cette proposition de loi de la rapporteure, Madame Estrosi Sassone, elle est dans le bon sens, parce que comment ils font les gens? C'est pas dur, ils allaient sur Internet, ils continuent d'aller sur Internet,
Ils regardent les procédures à suivre, comment on fait pour squatter. On casse les serrures, on rentre, et puis on dit que éventuellement que le propriétaire a pu être violent. On dit que le propriétaire, vous avez prêté l'appartement ou la maison ou l'atelier. On dit ce qu'on veut, et puis après, ben, c'est au propriétaire de prouver, si vous voulez, le titre de propriété et de se tourner vers l'administration fiscale pour prouver qu'il est bien propriétaire. Donc effectivement,
et ça va changer, on est d'accord.
On marche sur la tête. Et donc ce qu'on veut, nous, en réalité, ce qu'on veut à l'UNPI, on est là pour quoi ? On est là pour protéger les propriétaires. Et pour protéger un propriétaire, j'aurais dû le dire en préambule, mais je le dis quand même, il faut toujours garder son calme. Si la maison a été fracturée, par exemple, vous allez à la gendarmerie, vous allez porter plainte, vous faites venir un huissier. Vous ne vous faites jamais justice vous-même. Oui. Et la dérive, on la voit. La dérive, elle est où ? Et la dérive, elle est que. Il n'y a pas de proportionnalité. Si vous regardez un squatteur, lui, il risque 15 000 euros d'amende.
C'est 45 000 pour le propriétaire.
Si c'est le propriétaire qui veut récupérer son bien, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est pas normal.
Je pense qu'il faut déjà qu'il y ait un équilibre, que les choses se rééquilibrent, qu'on définisse bien ce qui se passe. Parce que, je vais vous donner un exemple. Vous prenez quelqu'un qui va aller dans un appartement qui est neuf, qui se termine.
D'accord.
Cet appartement, en réalité, les squatteurs rentrent à l'intérieur. Eh bien, il n'est pas protégé. L'appartement, il n'est pas protégé, puisque ce n'est pas encore un bâtiment d'habitation. Ouais. Il n'a pas encore été habité.
Et vous ne l'avez même pas assuré encore.
Et il n'est pas assuré, etc. Et les exemples comme ça, on peut les prendre à l'appel. Si vous prenez, nous, on le voit souvent, parce qu'on a souvent des artisans qui viennent nous voir. On a souvent des artisans qui viennent nous voir. Le petit artisan, il a la retraite, il a un atelier. Voilà, donc eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il est un peu fatigué, il commence un peu à aller à la maison de retraite ou voir ses enfants. Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, l'atelier est fracturé, on rentre dans l'atelier. Et puis on fait quoi ? On s'occupe de l'atelier, on squatte la cour, on met des caravanes dans la cour, etc. Et puis après, ben, on rentre dans la maison. Et si vous voulez, tout cet amalgame fait que, en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des réseaux, j'allais dire quasiment professionnels, qui s'occupent de ça. Puisque il y avait un exemple qui avait frappé tout le monde et on l'oublie aujourd'hui, c'était au moment des attentats, je ne sais pas si vous
Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'exemples qui ont frappé beaucoup de monde.
On appelait ça avec l'affaire Jawad. C'était un jeune.
Oui, ça, on se souvient, oui, bien sûr.
Voilà, le jeune avait pris un immeuble et puis en réalité, bah, lui, le propriétaire, il était dans la loi pour essayer de récupérer son bien et puis pendant ce temps, le jeune, bah, lui, il délivrait des baux et puis il encaissait des loyers.
Ok, donc, alors, Christophe, on va essayer d'être un peu court parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui veulent s'exprimer et j'aimerais bien leur passer la parole. Laurent nous appelle de Livry-sur-Seine en Seine-et-Marne. Bonjour Laurent.
Bonjour Estelle.
Et vous, Laurent, alors vous êtes un mauvais payeur, vous.
Voilà, moi je suis un mauvais payeur. Donc merci à Perico d'avoir fait la distinction entre incident de la vie et squatteur. Parce que ça n'a absolument rien à voir. Moi j'ai un bailleur qui était les 3F.
D'accord.
Que j'ai tenu au courant de ma situation, qui ont ralenti la procédure pour m'expulser, parce que je m'occupais de ma mère, c'est ce qui m'a mis dedans. Et au bout du compte, je les ai toujours tenus au courant. À la fin, j'ai quitté mon appartement en le rendant, en évitant les huissiers. Et donc aujourd'hui je suis SDF, mais par contre je suis SDF pour pouvoir rembourser au plus vite parce que je compte pas rembourser en 10 ans quoi. Donc c'est pour pouvoir rembourser plus vite que j'ai pas repris un appartement derrière. Mais même les bailleurs sociaux, quand on les tient au courant, ils comprennent les situations. En tout cas moi, ils ont compris et ils m'ont soutenu en fait.
Et vous arrivez à être aidé pour payer votre loyer ? Parce que vous dites, ça paraît aberrant, vous soyez obligé en fait de dormir dans votre voiture pour payer un loyer, vous l'avez pas.
Je travaille, j'ai droit à aucune aide.
D'accord, vous faites partie des travailleurs pauvres en France, en fait.
Voilà, c'est ça.
Mais Laurent, en fait, vous avez eu un accident de la vie qui fait que vous n'avez pas pu payer votre loyer, c'est-à-dire que vous avez été au chômage, par exemple ?
J'ai assumé ma mère.
D'accord.
Qui était en cancer généralisé avec Alzheimer, donc je l'ai assumé pendant 3 ans. Donc, vu que c'est tombé en plein Covid, tout était compliqué. En plus, on connaît pas forcément les lois, donc j'ai payé pendant 2 ans et demi son appartement alors qu'il était chez moi. Donc, l'un dans l'autre, une fois loyer mutuel, y avait plus de sous. Elle avait une petite retraite, donc je devais rajouter derrière, en fait.
Et vous n'avez pas payé pendant combien de temps, Laurent ?
2 ans et demi.
D'accord. Et vous êtes parti donc sans avoir payé, en fait, avant que les huissiers n'arrivent, et aujourd'hui vous remboursez chaque mois.
Ah, mais c'est même pas ça. J'ai toujours tenu au courant mon bailleur, donc il était au courant. Lui, je vous dis, la procédure, il l'a pas lancée tout de suite. Il a attendu au maximum pour la lancer. Et ensuite, ma maman, elle est décédée. Quand elle est décédée, je les ai recontactés. Je leur ai expliqué. Je leur ai demandé si je pouvais rendre l'appartement avant de me faire expulser par les huissiers. Ils m'ont dit pas de problème. Ils m'ont pas envoyé les huissiers. On a fait un état des lieux normal. Et aujourd'hui, je rembourse ce que j'ai à rembourser.
Alors, vous dites, Laurent, c'est bien de faire la différence, et effectivement, on est tous d'accord avec ça, avec un squatteur et quelqu'un qui a un accident de la vie. Mais est-ce qu'il faut faire aussi la différence entre un bailleur, un 3F, et un propriétaire particulier? Parce que ça aussi, c'est pas tout à fait pareil.
Bien
finalement,
sûr. Les 3F, ils n'ont pas forcément besoin de mon loyer, ils vont pas couler. Alors qu'un particulier, moi, j'avais vu une dame, là. Une amie qui était partie en vacances, elle revient, c'était il y a des années. Elle revient de vacances, on lui a squatté, c'est elle qui s'est retrouvée SDF.
C'est ça. Oui, non, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. On est d'accord, Christophe Demerson, que voilà, il faut faire quand même des distinguos dans la loi.
Bien sûr qu'il faut faire des distinguos, mais vous savez, moi, ce que je vois souvent, quand on rencontre en réalité le bon sens, un propriétaire normalement, s'il a un bon locataire, il n'y a jamais de souci. Effectivement, il y a des gens qui peuvent avoir des soucis. Et en général, nous, ce qu'on voit, c'est plutôt des gens qui ont attendu, et peut-être des fois trop attendu, pour essayer de régler les choses. Et cela dit, à côté de ça, on a une bonne garantie aussi. Il y a plein de garanties privées qui sont très bonnes, mais on a aussi la garantie visale. Et cette garantie, nous, on a signé un partenariat national avec Action Logement, justement pour que des gens, par exemple, qui travaillent, des intérimaires, des saisonniers, etc., puissent se loger, puisqu'il faut comprendre, il faut se mettre à la place d'un bailleur privé. Le bailleur privé, lui, il a tout risqué là-dedans, parce qu'il peut faire détruire son appartement.
C'est pour ça qu'il faut faire la différence, on est d'accord.
Et puis aussi, ce qu'il fait pendant ce temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les charges, elles courent. L'eau court, il a l'obligation d'entretenir le bien.
Mais c'est pour ça que c'est pas pareil un propriétaire particulier et un bailleur. C'est pour ça qu'il faut aussi faire la différence.
Et il continue aussi, malheureusement, à payer ses impôts fonciers. Il n'y a pas de dégrèvement, rien du tout. Et vous avez vu, comme moi, l'actualité récente nous l'a prouvé. Vous avez vu l'explosion des impôts fonciers. Oui. Donc souvent, il faut rappeler aussi qu'il y a un chiffre quand même qui va vous intéresser.
Allez-y.
Il y a un tiers des bailleurs. C'est des retraités, des petits retraités.
Oui, non, mais là je parlais des entreprises qui étaient bailleurs, c'est pas tout à fait pareil. Je veux dire que quand c'est un particulier
qui a des moyens,
son logement. Merci Christophe Demerson, on va remercier Laurent aussi, et puis bon courage Laurent, voilà, et puis merci pour votre témoignage dans Estelle Midi. Vous avez plein de messages, Rémi.
Notamment ce message de Mathieu qui nous dit: faisons comme au Canada. Là-bas c'est très simple, vous devez payer votre loyer le premier de chaque mois. Si le 3 du mois vous n'avez pas payé, c'est une hausse de 20% du montant du loyer sur ce mois-là. Et puis si le 5, vous n'avez toujours pas payé, c'est une expulsion immédiate par les forces de l'ordre, quel que soit le temps et la saison.
Ah oui, au Canada, c'est un peu l'hiver, à moins 40.
Il n'y a pas de très d'hiver.
C'est un peu dur. Durcir la loi contre les squatteurs, est-ce que vous êtes pour ou contre?
C'est pour et c'est massif. C'est rare qu'on ait des scores aussi massifs. 96% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
Je vois pas comment on peut être contre.
Oui, je vois mal comment.
Non, mais tu peux être contre pour protéger. Regarde Laurent qui vient de nous appeler, qui vit dans sa voiture.
C'est pour ça qu'on distingue les mauvais payeurs et les squatteurs.
Mais c'est un mauvais payeur. Et la loi, elle est aussi pour les mauvais payeurs. Elle n'est pas que pour les squatteurs. En fait, elle est pour les mauvais payeurs. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu peux aussi te dire que Laurent, voilà, il a tout fait comme il pouvait. Sa maman est tombée malade. Il a dû gérer deux loyers.
La loi peut dire au bout de 18 mois, 12 mois, 24 mois de non-loyer, elle s'applique. Voilà, elle laisse un délai. Et on est dans la justice républicaine.
En fait, on est tous d'accord pour dire que ça dépend comment est créée la loi. À la fois sur à qui elle s'applique et ce que tu disais. C'est pas la même chose entre les multipropriétaires, les petits propriétaires qui dépendent du loyer et les bailleurs.
Un peu les policiers qui arrivent en donnant tout de suite raison aux squatteurs. Enfin, les témoignages sont accablants.
Mais parce que c'est la loi. C'était pas la loi, tu penses.
Je sais bien que c'est la loi, mais.
Je pense pas que les policiers ils soient pro-squat, hein, tu vois.
Non, ça m'étonnerait. On est quand même sur Mars, quoi, là, à un moment donné.